à nous de jouer avec la réécoute de deux magnifiques émissions en une. Deux en une. T'as un super concept. Allons-y. Et non, mais écoutez,
déposez-le.
Vous allez
voir. Vraiment, déposez-le.
Dans le bureau de Par Jupiter.
Bon, les garçons, j'aimerais qu'on se concentre aujourd'hui.
Comme tous les jours,
Charline.
Ouais,
particulièrement aujourd'hui, parce qu'on reçoit quelqu'un de la playlist de France Inter.
Ouh, là, moi, je vais aller faire un petit tour.
Non, parce... tu restes là. Vous êtes beaucoup trop moqué de cette playlist.
Non, si peu.
Non, jamais. Parce que moi, j'aime beaucoup, moi, la chanson française,
Charline. Ah, un bon point.
Allez. Non, mais on se moque pas vraiment de la playlist. Qui aime bien, châtie bien.
Oui, voilà, moi, par exemple, je fais énormément de vannes misogynes, mais j'adore les filles.
Trop, peut-être.
Bah, ouais, et moi, regarde, je me moque beaucoup de la droite. Mais en fait, non, c'est pas un bon exemple. Mais bon, on reçoit qui?
Ah ben aujourd'hui, on reçoit le prince de la playlist.
On a déjà reçu Gérard Lenormand.
Hein? Non, mais c'est. Oh non, Benjamin Biolay par-ci, Benjamin Biolay par-là, on l'a déjà reçu.
Mais c'est pas Biolay, c'est la crème de la crème. Un certain Eddy.
Monsieur Eddy, j'adore.
Ah, bah quand même.
Ah, bah moi aussi, j'adore.
J'ai vu tous les concerts.
Non, mais Guillaume, tu pourrais nous citer une chanson d'Eddy de Pretto, toi?
Ah, bah parfaitement.
Ah, bien joué, c'est le titre de la deuxième chanson de l'album. Dites, t'en connais une autre?
Grave.
Ouais, ah, bah ouais, dis donc, t'es fort.
Bah normal.
Putain, mais normal aussi, ça c'est l'album cure comme grave. Bon, bah je vais vous laisser préparer l'interview alors.
Mais non, attends.
Comment tu sais tout ça, toi?
Mais j'ai rien pigé à ce qui s'est passé, moi. Je suis bien emmerdé. Je sais pas comment je vais faire pour l'interviewer. Tu connais, toi?
Moi, je connais. Je connais hyper bien, Eddy. Ah bon? Il a pas de secret pour moi. Sur la route de Memphis. Sur la route de Memphis.
La France Inter et bienvenue chez les feignasses de la blague, ce que nous appelons donc les florilèges de l'ascension parce que les ponts des fêtes catholiques parfois, ça a du bon. Alors nous allons réécouter Eddy de Pretto qui était venu nous rendre visite. Il avait parlé des jeunes engagés sur plusieurs fronts mais engagés autrement, pas forcément par le vote. Et puis nous avions évoqué la plateforme Spotify qui vient de donner la possibilité d'écouter enfin les titres dans l'ordre des albums. Ensuite, discussion avec Marina Rollman, qui était venue nous voir au moment de l'affaire de la vente de sous-marins à l'Australie qui avait capoté. Jean-Yves Le Drian s'en est parmi. Et puis la série Seinfeld qui arrive sur Netflix. Juliette Arnault, quel chroniqueur avez-vous reconvoqué dans cette émission?
Alors, que du charisme. Beaucoup de charisme avec Aline Fanoukoé, avec Thomas VDB, avec Frédéric Fromet et un tout petit peu moins de charisme avec Guillaume Meurice.
Très bien. Et bien, avec toute cette équipe, nous entamons la discussion, on va dire, la rigolade avec notre invité Eddy de Pretto. Je le savais, Eddy de Pretto.
À 50 cm du bol de sangria.
Charline Vanhoenacker, Juliette Arnault.
Par Jupiter.
Bonjour Eddy de Pretto.
Bonjour, ça va?
Mais bien. Oui, très bien. Merci d'être avec nous. Vous êtes en tournée avec votre deuxième album, À tous les bâtards. Vous aviez déjà fait une grande tournée avec le premier album. Vous avez acquis une certaine maîtrise de la scène. Et quand vous avez écrit ce deuxième album, est-ce que vous avez tenu compte un petit peu de la tournée? Vous vous êtes davantage projeté dans l'écriture texte et musique?
Il y a des morceaux où je me suis dit, ouais, ça va grave ambiancer, surtout dans les festivals. Il y a un truc dans les festivals, c'est que à chaque fois sur le premier album, je me disais, il manque des chansons up, parce que je suis pas celui qui fait de la disco ou de la samba tout de suite.
Et... Vous aviez quelques chansons down. Oui.
J'ai beaucoup de chansons, justement, sur le texte, sur le deep, quoi, plutôt un peu plus sombre. Et donc, du coup, en festival, je me suis dit qu'absolument, il fallait rehausser ça pour attraper le monsieur là-bas qui boit sa bière et qui s'en fout.
Ah, donc ça a un petit peu influencé votre écriture de cet album. Alors dans cette tournée que vous avez entamée au Bataclan, vous jouez à la fois dans les zéniths, les grands zéniths de France, et aussi, je l'ai dit, au Bataclan, des scènes un peu plus petites, mais quand même pas mal, hein. C'est le moyen,
six
on va dire.
Ouais,
quand même, six Bataclans, c'est énorme. Mais c'est deux salles de taille différente. Est-ce qu'on fait vraiment le même concert dans un zénith et dans une autre salle?
C'est en termes d'énergie, j'ai l'impression que j'ai plus d'espace pour me dédoubler, pour devenir encore plus gros en zénith qu'au Bataclan, parce que il y a beaucoup plus de proximité, de fête avec les gens au Bataclan, et du coup, je me grandis, mais peut-être un peu moins que dans un zénith. C'est comme un peu l'image du poisson rouge, c'est tu le mets dans un petit bocal, il reste de la taille du petit bocal. Si tu le mets dans un grand bocal, il devient énorme, le poisson rouge. Et ben, en fait, je suis ce poisson rouge là.
Et donc, les chansons que vous avez écrites en disant, tiens, pour les festivals, ça va bien ambiancer. Au Zénith, ça va, vous allez pouvoir tester cette ampleur-là un petit peu.
Ça sera le feu. Ah oui, c'est clair.
Garantie, je vous le promets.
D'accord.
Alex. Vous semblez aussi, même en interview vis-à-vis des médias, beaucoup plus détendu que quand on vous a connu. Quand vous êtes arrivé, vous étiez un peu timide.
Je connaissais pas.
Mais c'est pas un reproche.
Ah, d'accord.
C'est même plutôt.
Là, ça y est, maintenant.
Mais oui, c'est plutôt un compliment. Et on savait, quelque part, au premier album, on s'est dit si on le reçoit, comment il va être. Et ici, on était hyper contents. On savait que vous alliez être joyeux. Est-ce que ça, justement, sur scène, vous en profitez mieux maintenant de cette coolitude, je sais pas comment le dire. Mais...
Ouais, de la détente. Mmh. Bah, en fait, plus tu. C'est comme tout, hein. Je pense que plus tu acquéris de l'expérience, plus t'es détente et plus tu comprends que ce petit sourire à ce moment-là, que nanani, que le fait que plus tu vas mieux le vivre, plus tu vas passer un putain de bon moment avec les gens et plus ça va s'entendre et plus ça va se ressentir.
Ça a été une réflexion ou c'est vraiment un truc presque épidermique?
Ah non, c'est une construction de tous les jours. C'est un travail, monsieur.
On félicite
tous
les
jours, tous les matins, je me dis sourire, sourire. Tu vois, je me dis ça va bien se passer aujourd'hui, ça va être une belle journée.
Eh bien, go, Eddy de Pretto, on va parler de votre musique avec Aline Afanoukoï.
Eddy de Pretto, vous êtes un anticonformiste assumé. Et vous avez toujours cru en vous depuis votre ville natale de Créteil, à laquelle vous rendez hommage dans vos deux albums. Dans Cure notamment, vous la présentez comme un endroit multiple, animé et sombre à la fois. Dans cette chanson, Beaulieu.
Au Beaulieu, il vaut mieux que je te quitte. Je file mes poches sans fric. Au Beaulieu, bel et bien ma favorite. Je garde toutes tes briques.
Habile jeu de mots où beau remplace ban, c'est-à-dire en marge de la société, ce que vous n'êtes pas du tout. Vous êtes complètement normal.
Insulte-moi et descends-moi de contre-nature ou la belle injure. Ça te froisse, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos, car je suis complètement normal.
Normal, comme le président, un certain président, non. Mais pas banal, ça non, Eddy de Pretto. C'est cette vie de banlieusard et cette posture de caïd par moments qui vous ont rendu plus fort et donné l'envie de pulvériser tous les clichés et de surmonter les obstacles. Vous aviez de grands rêves et il y avait une petite voix qui vous disait que vous y arriveriez. Vous avez bien fait de l'écouter. Après des études à l'Institut supérieur des arts de la scène, des rôles au théâtre et au cinéma, vous commencez votre carrière comme chanteur au fil de l'eau en interprétant les chansons des autres sur les péniches parisiennes.
Quand j'avais personne qu'une soif qui déborde, je rêvais des tonnes, je me voyais déjà en haut et c'était beau. Début beau. Début
Pas de doute, vous en avez dans le ventre et sous le pied. Avec votre titre Kid, vous balayez encore les clichés d'un revers de main, que dis-je, d'un coup de poing, affirmant que la virilité et la force ne se mesurent pas à la longueur d'un sexe triomphant.
Tu seras viril, mon kid, tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique.
Bonne nouvelle pour Alex.
Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique.
Tu seras un homme, mon frics.
À tous les bizarros, les étrangers, les bâtards. À tous les monstres, ceux qui dérangent les mises à l'écart. À tous les païens, les exclus, sans égard. À tous les seuls, ceux dans leur chambre, toujours dans le noir. Freaks.
Eddy de Pretto, vos mots posés là avec grâce et délicatesse, tantôt chantés, tantôt rappés, permettent à votre auditoire de se retrouver, de se reconnaître et de se réfugier aussi. Votre duo avec la talentueuse chanteuse Iseult, qui a comme vous cette capacité de faire voler en éclats les préjugés, nous offre une véritable pause salvatrice et un kiss que l'on reçoit bien volontiers.
Je ne veux pas y faire face, Je préfère me fuir jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire, ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir, être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Dis tu fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire. Comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là dans la grisaille. Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus. Et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher. Mais tu sais, toi, tu connais comment ouais, je suis épuisé. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes s'il te plaît. S'il le faut je viendrai les sécher. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi, jamais faiblir. Dis tu fais quoi pour pas périr. On nous dit même comment rire. Comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour. Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Et Kiss, le titre d'Eddie De Pretto qui est en notre compagnie. Et on va aborder ce premier thème avec vous, car le jeune s'engage, mais autrement. Et il ne vote pas. Alors c'est pas moi qui le dis, c'est Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à la citoyenneté. Elle veut donc pousser les jeunes à se déplacer vers les urnes avec une campagne d'incitation au vote au mois de janvier, via bien sûr les réseaux sociaux, ou en allongeant le délai d'inscription sur les listes électorales. Et les contours de cette campagne sont encore flous, mais Marlène Schiappa étant à la manœuvre, on n'est pas à l'abri qu'un vote effectué égale un lissage brésilien offert.
C'est une riche idée. Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Est-ce que tu crois qu'ils l'ont fait? Si, si, ils l'ont fait. C'était pas mal parti. Mais ils se sont arrêtés là. Et c'est ça qui est dommage. Hein mm-hmm. Tu vois, c'était de la poudre aux yeux. Ils ont jeté de la poudre aux yeux. Les gens ont dit oui, mais non. J'ai été observateur. J'ai remarqué qu'on s'est arrêté à un moment. Et c'est ça qui est dommage.
Benoît Poulvord, c'est arrivé près de chez vous, bien sûr. Et alors, en vrai, Marlène Schiappa propose aussi une éducation civique à l'importance du vote. Voilà pour l'ancrage actualité. Alors, il y a pas mal d'aspects de votre art, Eddie De Pretto, qui vous relient à la politique, sans doute aussi malgré vous. Quand c'est de votre plein gré, l'engagement, vous qui êtes jeune, qui avez 28 ans, est-ce que cet engagement passe par le vote, parfois?
Oui, j'ai toujours été voté, ouais.
Ah oui?
Ouais. Ouais, enfin, pour les présidentielles.
Ah. Ouais. Les départementales sont...
non, je devrais pas dire ça, mais là où, en tout cas, on nous annonce qu'il est plus important de voter, c'est dans les présidentielles. Donc je l'ai toujours fait, ouais. Carrément. Mais moi je trouve que c'est le système de vote qui est un peu désuet, c'est qu'on devrait voter sur Instagram aujourd'hui, pouvoir en un clic,
c'est vrai.
Pouvoir voter ou sur les réseaux ou un truc beaucoup plus rapide, ouais. et vif quoi.
Le vote électronique déjà.
Voilà.
La première
ça serait mon premier.
Bonne idée. Vous voulez pas faire conseiller de Marlène Schiappa?
Non, président.
Ce c'est vrai. Alors, il y a les paroles, par exemple, de votre chanson Kid sur le virilisme qui ont été lues à la tribune de l'Assemblée nationale par la députée LREM de l'Allier, Laurence Van Senebroek, à l'occasion de sa proposition de loi pour faire des thérapies de conversion à un délit. Et donc, je rappelle, hein, vouloir changer de force l'orientation sexuelle, ce qui est assimilé à de la torture. Oui, alors ça, quand vous entendez que, voilà, qu'à la tribune de l'Assemblée, il y a les paroles de votre chanson.
C'est énorme, ouais. c'est étonnant, c'est surprenant. Je me rappelle très bien dans les conditions où j'ai écrit cette chanson. J'étais dans ma chambre seule, dans un petit appart à Paris. Et jamais j'aurais pensé que certes elle aurait connu ce succès-là et ensuite après qu'elle soit utilisée à des fins politiques et surtout pour défendre des droits que je défends également et que je trouve méga important de mettre sur la place publique. Donc
quand vous écrivez,
je suis ravi.
À un moment, le texte s'abandonne parce que une fois que vous avez
il est plus fort que nous, surtout. Ouais, voilà. C'est que là, il me dépasse, il prend beaucoup plus de place que moi, mon nom, je pense. Il est mis en statut politique pour défendre des droits. Et tant mieux si c'est la force des messages dans les chansons, dans l'art en général, peut avoir cet entrechoc-là. Je crois que c'est la solution.
Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui vous cite aussi régulièrement.
Eddy de Préto est en notre compagnie. On va parler expérience client de la musique à présent. Car la plateforme de musique la plus streamée au monde, Spotify, vient de céder face à la chanteuse Adele. Pas sur la rémunération des artistes, ni sur l'exploitation dont ils font l'objet. Mais Spotify a accepté de respecter l'ordre des chansons dans les albums, et c'est un premier pas. Avant, la version gratuite de l'appli ne laissait pas le choix, c'était écoute aléatoire obligatoire. Ce mode a été désactivé. Artistes et plateformes, c'est l'histoire d'un bras de fer qui ressemble à un combat séculaire.
Cet accord est trop sec, monsieur Bloch.
Cet accord est tel qu'il a été écrit, mademoiselle Bergson. C'est comme ça et pas autrement.
Mais ça ne fait pas joli.
Parce que vous attendez de ma musique qu'elle fasse jolie.
Ah non, monsieur Bloch, vous n'allez pas recommencer.
Vous avez dit que ça faisait pas joli, oui ou non? Oui, vous l'avez dit. Eh bien, effectivement, ça fait pas joli. Je compose pas des musiques rubans, des musiques dentelles, des musiques fanfreluches.
Je sais, monsieur Bloch, je sais.
La musique est dans tout. Un hymne sort du monde. C'est pas un musicien qui a dit ça, c'est Victor Hugo. Un hymne sort du monde. Alors méditez bien cette phrase, madame, et foutez-moi la paix avec mes accords trop secs.
C'est un extrait de Showbizness, avec CH, film de Jean-Yann qui date de 75 avec Robert Hirsch et Catherine Rouvel. Alors c'est peut-être un détail pour nous, ce changement sur Spotify, mais pour vous ça veut dire beaucoup cette histoire, Eddy de Préto.
C'est beau cette phrase. C'est beau. Hein.
Bah, je savais que vous étiez l'invité, j'ai fait gaffe. Hein. Je sais que vous avez de l'or dans vos moleskines, alors. Oui, c'est
énormément. Bah, énormément. C'était pas la première parce que Lady Gaga, je crois qu'elle avait déjà fait un tweet. Ah. Vis-à-vis de ça, sur son album Chromatica, il me semble. C'est pas la première à en parler en tout cas, mais je crois que c'est la première fois que Spotify, en tout cas, va vers ça et écoute une chanteuse, et pas la moindre. Donc c'est cool, tant mieux. On a énormément de choses à faire encore pour reprendre le pouvoir vis-à-vis des plateformes, même sur les tarifs, même sur les pourcentages, même sur l'usage, comment c'est réparti, comment c'est reversé aux artistes et à quel pourcentage. Il y a énormément de choses à faire.
Donc Adèle a encore du boulot, parce que Adèle, c'est celle qui permet à Spotify de peser en bourse. Donc elle pourrait continuer le combat. Elle a ouvert la brèche, ce serait pas mal.
Malheureusement, s'il faut tous être des Adèle pour pouvoir faire bouger Spotify, on n'a pas fini.
C'est à craindre, sauf si vous vous fédérez.
Ouais, exactement, il faut faire un lobby entre artistes. Oui. Je lance une proposition d'un lobby artistique.
Mais donc, vous, quand vous composez l'album, vous réfléchissez à cette hiérarchie, à cet ordre? Parce que je me dis, pour un opéra, c'est pas possible de faire ça. C'est-à-dire que si Carmen meurt avant qu'elle ait séduit José, c'est un vrai problème. Spotify n'a pas compris.
Bah, bien sûr, Spotify n'a pas compris ça, en tout cas. Mais il est vrai que, en tout cas pour mes albums, et d'autres, je pense aussi, c'est important l'ordre de du récit, en fait. Après, je suis pas en train d'obliger aux auditeurs de choisir. Il faudrait qu'ils aient le choix de pouvoir soit avoir le choix d'écouter en shuffle, aller aléatoirement, soit Drive to Shuffle, soit Drive to Dollar.
Vous êtes un grand amateur de théâtre et vous avez fait des études aussi pour. On voudrait jouer avec vous dans un sketch si vous êtes d'accord.
Oh là, j'adore faire ça.
Ah, génial.
Et vous allez kiffer le rôle.
Putain, ça date.
Éric Zemmour.
Non.
Mais oui.
Je ne crois pas.
Mais je te jure.
Chaque fois, tout le monde en parle de ce mec. C'est fou. Hein. C'est
hier, sur France Info, il a dit qu'avoir un 100 mètres carrés à Paris, c'était être riche. Et ça, son équipe de com, il faut qu'elle leur cadre un petit peu. Charline et Guillaume sont l'équipe de com. Vous êtes Monsieur Zemmour.
Je ne crois pas.
Composition.
Bon, mon Rick Fou, ça va pas du tout là. Hein.
Oui, comme on dit chez nous, t'as chié dans la com.
Ah, pourquoi vous dites ça?
Bah t'as merdé hier avec ce que t'as dit sur ta maison.
Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit sur CNews?
Non, pas cette maison-là.
Qu'est-ce qui ne va pas alors?
Bah tu peux pas dire à la radio que posséder un 100 mètres carrés à Paris, c'est pas être riche.
Ah bon, première nouvelle.
Mais oui, mais Eric, les pauvres, ils comprennent pas ça.
Bah, ils sont pas bien malins.
Bah oui, c'est même pour ça qu'ils ont envie de voter pour toi. Alors.
Le français moyen, il pense qu'avoir un pied-à-terre de 100 mètres carrés à Paris, c'est rouler sur l'or. Hein.
Vous voulez dire qu'avec 1 300 000 euros, on est considéré comme riche?
Voilà.
Ouais, ça doit pas se jouer à beaucoup.
Bon, et donc là, on va te briefer pour que tu te trompes plus.
Ok, allez-y. Bon.
Alors, Moriri, quel est le niveau du SMIC?
8 000 euros par mois.
Non, mais non, mais non.
Ah bon? Même brut?
Mais non plus. Non plus, non.
Ouais, ça doit pas se jouer à beaucoup.
Hein. Un peu quand même, c'est 1258 euros.
Ah, ça va alors, mais comment ils font?
Non mais attention, parce que les gens vont penser que vous êtes déconnecté de la France. Là.
Allez, on change de thématique. Là.
Bon, parlons de l'islam.
Non, parlons de l'automobile plutôt, je préfère.
Ah bah ça, je connais bien. Mon chauffeur me disait l'autre jour...
Top.
Quoi, bah, quoi.
Mais il faut pas dire que vous avez un chauffeur, enfin.
Quoi? Ce n'est pas être riche que d'avoir un chauffeur?
Ben si, justement, c'est ça.
Ah bah, alors, quand est-ce que les Français font une sieste? S'ils conduisent eux-mêmes les voitures?
Ben ils font pas de sieste.
Bah ça alors, mais comment ils font?
Bon, autre sujet.
Okay, bon, le voile?
Non. Si on vous demande votre plat préféré, vous répondez...
La langoustine. Sur une mousse orange de truffe.
Non, ça va pas. Non,
il faut donner un plat de pauvre, voilà. Là. Parler du couscous, là, je sais pas, moi.
Ouais. Ah, ça oui, je peux en parler. Il faut qu'ils rentrent chez eux, les couscous.
Attendez, mais c'est quoi ça encore? Qu'est-ce que c'est?
C'est ma Breitling. J'ai mon cours de golf qui démarre dans 20 minutes. Mon chauffeur m'emmène à Hauteuil. On vous dépose quelque part.
Oh là. Eh ben, écoutez, un peu calme, là.
C'est lui qui siffle la mi-temps dans cette émission, généralement, Juliette Arnault, c'est
Guillaume Meurice.
Ouais.
Et alors là, vraiment, il est allé à la rencontre, de très clairement sa fanbase, c'est-à-dire une manif de chasseurs, sa vie.
Bon bah écoutez, ce week-end je suis parti en Picardie les amis. L'ambiance était devenue trop étouffante à Paris avec cette fameuse affaire du Zopgate, la Charline. Hein, quelle honte de mettre des moustaches d'Hitler sur Zemmour. Enfin c'est de l'antinazisme primaire. On peut pas mettre tous les nazis dans le même sac. On fait pas des amalgames comme ça. C'est ça qui tue notre vivre ensemble. Alors pour me sentir mieux, plus en sécurité, je dirais plus en phase avec mes valeurs, je suis allé à la grande manifestation des chasseurs à Amiens. Et alors là j'étais ravi, c'était vraiment super, c'était top. Alors je ne fais pas d'appropriation culturelle puisque je viens moi-même de la campagne profonde. Je suis ce que les Parisiens appellent un plouc. Ah, et vous connaissez l'adage, les ploucs ont le droit de se moquer des ploucs, les noirs des noirs et les gens en état de mort cérébrale des déclarations d'Alain Finkielkraut. Alors, cette manifestation était vraiment sublime. Il y avait de la musique, il y avait des couleurs, il y avait des moustaches. C'était la Gay Pride, en fait, hein, mes versions, treillis, éclairons. Parce que le but, c'est plutôt de pouvoir continuer à défoncer de la bestiole, ou plutôt, comme on dit chez les chasseurs...
Principalement, le but... Et de prélever des canards.
De prélever, ça veut dire quoi?
Prélever, c'est, je dirais, gérer l'activité des oiseaux.
Concrètement?
Le chasseur, on l'entend tirer quelquefois.
Ah oui, tire, ouais.
Ouais, il tire.
Le mot, c'est plutôt tuer, alors.
C'est prélever.
Prélever, voilà. C'est pas tuer, on dit prélever, ouais, c'est important. Nordal Le Landais, par exemple, prélève des gens. Voilà. Mais bien sûr, non, mais il faut être très, très précis. Alors, pour être plus précis encore, cette manif, elle avait pour but de défendre la chasse traditionnelle. En Picardie, c'est la chasse à la hutte. On attache un canard par la patte pour que ses cris attirent les autres canards pour les défoncer au pour les prélever un canard qu'on appelle un appelant, justement, explication.
Elle est élevée à la maison, comme vous élevez votre chien, votre chat.
Voilà. Vous élevez un canard et après vous l'attachez au fond de l'eau avec une corde pour attirer les autres.
On l'attache pour qu'il appelle les autres oiseaux sauvages à venir.
Mais est-ce que c'est pas cruel comme pratique?
On peut tout penser, tout peut être cruel. Vous savez, quelquefois on a des mots cruels envers des amis qu'on adore et voilà.
Et on les attache par la patte d'une arme.
Mais nous sommes tous attachés par une patte, monsieur.
On est tous attachés par une
monsieur,
patte.
Monsieur, la liberté, monsieur.
Dans la grande mare de la vie, j'ai envie de dire. On dira un haïku de Christophe Castaner sur Instagram. Christophe qui, lui, chassait le globe oculaire au flashball. Vous vous souvenez, c'est une chasse traditionnelle aussi. Il y en a plein. Il y a désormais la fameuse chasse à la glu qu'on connaît par cœur, qui, évidemment, ne choque pas les chasseurs.
Ouais, pour moi, ça ne me choque pas, puisque on a chacun sa façon de faire.
Mais est-ce qu'il n'y a pas de la cruauté, un peu ?
Bien sûr que non.
Il n'y a pas de cruauté du tout, par exemple, de piéger un oiseau sur une branche avec de la glu ?
Non, pour moi, non.
Mais c'est quoi la cruauté pour vous ?
Déjà, en tant que chasseur, j'aime pas laisser souffrir.
Bah, voyez, déjà, on peut être un chasseur sensible. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Qui nous dit que l'animal qui se retrouve collé à la glu sur une branche, il souffre ? On ne sait pas. Peut-être qu'il aime bien. Il doit bien avoir des animaux sadomaso. Peut-être que ça les fait kiffer. Voilà, chacun son délire. La direction de France Inter, par exemple, bah, ils aiment bien avoir un Devecchio qui vient vomir dans leur godasse tous les mercredis matins. Et bah, c'est chacun son délire. Voilà. Qui sommes-nous pour juger, finalement? Voilà. C'est important, c'est l'amour. Et c'est l'amour de l'animal. Parce que la chasse, c'est quoi?
D'être complice avec son chien.
Ouais.
Voir travailler le chien, tout. Après, vous savez, chaque coup de fusil n'est pas d'un... à succès, hein, faut pas croire. Hein.
Oui, des fois, il y a un cycliste de l'autre côté.
Non. Arrêtez de nous faire prendre, parce que il y en a qui... forcément, des accidents de voiture, il y en a tous les jours.
Oui, alors, bon, ça n'a rien à voir, puisqu'il n'existe pas encore de chasse à la Twingo, bien évidemment. Mais, ceci dit, c'est important aussi pour la faune et la flore, de temps en temps, de prélever un cueilleur de champignons ou un jogger, parce que sinon, ils prolifèrent. Donc, ça régule la population de cons qui disent qu'on doit plus chasser. Parce qu'évidemment, il y a des cons partout, hein, n'est-ce pas, monsieur le chasseur?
Oh, il y en a des cons partout.
Mais est-ce qu'un con armé, c'est pas plus dangereux qu'un con pas armé?
Non. Parce que, bon, après, faut savoir se maîtriser. Un con armé, il arrive à se maîtriser, qu'un con pas armé, il arrive pas à se maîtriser.
À vérifier quand même, à vérifier. Cette théorie, un con armé arrive à se maîtriser, bon. Bon, je ferai une chronique sur la police un autre jour. Allez, puisqu'on parle de cons, terminons par le roi d'entre eux, évidemment, Emmanuel Macron, qui est un copain de la chasse et des chasseurs, qui est tout proche de céder à toutes les revendications, mais pour eux, ça suffit pas.
Macron, la dernière, quand il est passé, il nous avait dit qu'on aurait pu avoir les oies jusqu'à mi-février.
Ouais.
Le 31 janvier, les a fermés. Aujourd'hui, on n'a plus rien. Après, c'est une révolution pacifique, c'est tout. Et on entend ça que perce.
Ça sera peut-être moins pacifique, vous voulez dire ?
Ouais.
On a hâte d'une manifestation moins pacifique, vous l'avez entendu, début mars. Moi, c'est bien parce que ça me laisse le temps d'acheter un gilet pare-balles. Parce qu'entre les fans de Zemmour, les fous de Dieu tout part, on reçoit quand même pas mal de menaces de gens qui veulent nous prélever.
Guillaume Meurice. Voilà. Merci.
Bah, voilà. On était bien en Picardie. Hein. On était vraiment bien en Picardie.
C'est vrai. Mais oui, vous êtes du coup.
Moi, je suis né là-bas, donc. Bah,
vous avez reconnu votre famille un peu peut-être.
Mais on entendait bien les klaxons derrière. C'était bien l'ambiance.
Trying to bring out the fabulous, 'cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Oh, I'm way too fine to be distressed, yeah. Oh, I'm not the girl I was or used to be.
tonight. I'm coming out 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 tonight. Okay.
C'était Lizzo, About Damned Time sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter et ce titre annonce l'arrivée de notre prochaine invitée, Marina Rollman. Bienvenue Marina Rollman.
Merci Par Jupiter.
Nos auditeurs vous connaissent bien car vous êtes régulièrement chez Nagui. On attend votre retour après votre tournée bien sûr.
Évidemment.
Vous êtes en pleine tournée. Vous faites partie de cette vague suisse qui a grand remplacé la vague belge de l'humour sur Inter.
Un tsunami très lent mais implacable.
Oui, on le voit arriver, hein, le tsunami du lac comme on dit. Et vous êtes donc en tournée avec un spectacle drôle, Marina Rollman.
Et vous abordez de manière assez frontale, un sujet qui existe depuis longtemps dans le rire, Buster Keaton qui était franchement neurasthénique, Woody Allen bien sûr, qui est la dépression. Et comme le spectacle n'a pas pu être joué au départ parce qu'il y a eu une épidémie.
Absolument.
Ah oui, la fameuse épidémie.
En écoutant votre spectacle, qui est fort drôle, hein, mais qui traite quand même de ce sujet, qu'il est moins, on va pas se voiler la face, je me demandais si tout ce qui était arrivé pendant cette année et demie avait encore amplifié ce que vous aviez envie de... Enfin, la confrontation que vous jugiez nécessaire avec la dépression.
Un petit peu, c'est-à-dire que j'en parle un peu dans le spectacle. Moi, je trouve que ça a été une année délicieuse pour les gens qui ont un peu ce tempérament-là. Parce que tout le monde n'allait pas bien. Et du coup, tu te sentais pas, par contraste, devoir sortir de tes épisodes un peu bluesy, parce que même les gens qui sont normalement hyper pump-it-up comme ça, bah, ils étaient pas bien non plus. Et j'ai trouvé ça assez chouette, ce petit nivellement par le bas, comme ça. Moi, j'ai bien aimé.
Et ça a fait bouger un peu le contenu du spectacle?
Un petit peu sur cette question-là. Et sinon, en fait, je me suis un peu interdit d'en parler trop dans le spectacle, parce que j'avais l'impression que justement, quand les gens retournaient au théâtre, ils avaient envie qu'on leur parle d'autres choses. C'est quand même ces petits mots-clés qui nous ont hantés, enfin qui continuent à nous hanter. Dès qu'on passe des gens à côté dans la rue, il y a toujours ces bouts de conversation. Ouais, puis test, puis truc, puis variant.
Didier Raoult.
Voilà, exactement. Didier Raoult. Et je me suis dit, c'est chouette pendant une heure et demie d'offrir aux gens l'idée que, genre, allez, on fait autre chose maintenant pendant
on
une heure et demie.
On parle de gagging.
Voilà, exactement. Et en même temps, test PCR, gagging, il y a quelque chose quand même sur tout ce qui est ce système, les bronches, il se passe des choses. Voilà.
Alors, vous passez de l'anecdotique, type vous parlez de la mozzarella, au plus profond, on l'a vu, par exemple, la dépression. Est-ce que vous écrivez de la même manière ces passages-là, l'écriture étant le fondement de ce que vous faites, et vous adorez ça. Est-ce que vous rendez grave le sujet de la mozzarella pour accentuer le rire, et plus léger le sujet de la dépression? Comment? Parce que vraiment, on passe du sujet totalement anecdotique au sujet profond, c'est un peu votre marque de fabrique aussi.
Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que ce jeu d'échelle et de voir des systèmes dans tout, et donc de pouvoir dézoomer ou au contraire zoomer, finalement, ça se dit assez facilement aussi. Je trouve ça chouette parce que effectivement j'ai l'impression que ça permet de rire du dérisoire et du très grave en ayant ces espèces de soupapes de oh finalement tout ça est soit extrêmement grave soit pas du tout, et c'est un exercice que j'aime bien. Et j'aime bien voir aussi des points communs entre des petites manières de fonctionner dans l'anodin, l'anecdotique, des petits échanges qu'on a, comment on va se parler dans la queue au supermarché, le truc, et puis tout à coup d'essayer d'appliquer ça à genre mais finalement le G20 qu'est-ce que c'est, est-ce que ce sera pas une grande réunion de famille. Et j'aime beaucoup ça, j'ai cette tendance à voir ça, et je pense que ça fait que les gens à la fois on a l'impression d'avoir vu un spectacle, alors comment dire des choses intéressantes, c'est un petit peu intelligent, et en même temps on pas l'impression d'avoir vu une conférence barbante. Enfin, on est un peu dans cet entre-deux. Ça a l'air un peu anodin et puis on traite quand même des choses importantes, et puis à la fois on s'ennuie pas, je crois. Voilà.
Finalement, c'est comme en économie, il y a du micro-comique et du macro-comique.
Exactement.
C'est
exactement.
La petite touche Marina Rollman, donc. Hein. Vous êtes aussi connue pour avoir un débit de parole assez rapide.
Ouais,
c'est-à-dire que vous n'arrivez pas tout à fait à le maîtriser, ou aussi il soutient votre manière d'écrire.
que vous écrivez en fonction, parce qu'il nous, il nous maintient dans un rythme. Faut dire, on doit avouer, Juliette et moi, qu'on n'a pas pu vous voir sur scène pour les raisons que tout le monde connaît, parce qu'il paraît qu'il y a eu une épidémie. Et on a pu écouter la, une captation audio de votre spectacle. Donc on fermait les yeux, on écoutait. C'est vrai qu'il y a des années, on écoutait aussi beaucoup de spectacles humoristiques.
Bien sûr. Vous avez fermé les yeux, vraiment.
Ouais.
Vraiment, c'était du Pink Floyd.
Elle a écrit sur vinyle d'ailleurs.
Donc, sur la question du rythme, vous écrivez en fonction parce que vous savez que vous partez très vite, à toute blinde. Il vous soutient, comment ça fonctionne?
Moi, j'écris en parlant. J'écris plus derrière mon ordinateur. Maintenant, le spectacle, il y avait une espèce de, il y avait une heure il y a 4 ans, et petit à petit, j'en ai enlevé 5 minutes, rajouté 5 minutes. Mais à chaque fois que j'ajoute, c'est que j'ajoute une phrase en impro, puis 2, puis 3 minutes. Mais en fait, je l'ai fait sur scène. Et donc, comme je pense, j'ai un peu peur, il y a de l'adrénaline, et j'ai peur que ce soit pas drôle et tout, je le dis très vite pour masquer si c'est nul ou faire rire les gens et les emporter dans une espèce de tourbillon d'arnaque si c'est bien. Et donc, comme j'écris en parlant et que je parle vite, voilà, ça se fait assez naturellement, quoi.
Moi, j'ai écouté les yeux fermés parce que je voulais l'imaginer sur scène, je voulais vous imaginer.
Il paraît que c'est, ouais, j'ai un jeu de bras étonnant. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui me disent que je suis drôle des bras et je ne sais pas comment le prendre. Parce qu'il y a des gens qui me le disent aussi quand je danse et vraiment je ne sais pas comment le prendre.
Ça sera le, ça sera peut-être le deuxième spectacle, ça s'appelle Un spectacle drôle des bras donc. Marina Rollman. Marina Rollman avec nous, elle est en tournée dans toute la France et on aborde ce premier sujet. Le général de Gaulle avait prévenu, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Hein, et puis après, ouin ouin ouin, les Australiens n'ont pas acheté nos sous-marins, bah ouais, bah c'est les Américains qui récupèrent le contrat, et le Drian, ah bah il s'est bien fait niquer aussi.
Les Italiens, les Espagnols, je dis pas on s'arrange, on négocie, mais putain Gabriel, les Américains, tu prends pas ce genre de risque avec eux.
Eh bah si, figure-toi, si, si dans le métier, si, ils sont tellement relous avec leurs contrats impossibles à tenir là.
Eh, hey, tourner la nuit le jour, c'est n'importe quoi, c'était sûr qu'il allait avoir un problème, je te l'avais dit.
Putain, mais t'as toujours pas compris que 90% du boulot, c'était régler des problèmes. Alors tu vas pas nous en vouloir à chaque fois qu'il y a un problème. Parce que justement, s'il n'y avait pas de problème, alors on n'existerait pas. Alors si tu pètes les plombs à chaque fois qu'il y a un problème, à ce moment-là, il valait mieux investir, je sais pas, dans des putains de lavabos, j'en sais rien, moi.
Grégory Montel et Assad Bouab dans 10%, la série de France 2, dans laquelle vous avez joué, n'est-ce pas?
Une petite apparition, ouais, effectivement.
Marina Rollman, vous avez une passion pour les États-Unis, culturelle notamment, vous lisez beaucoup en anglais, etc. Vu comment ils nous méprisent là, est-ce que c'est pas un petit peu une passion coupable en ce moment?
Attendez, mais nous, de quoi on parle? Moi, je suis représentante de la Syrie. Je sais pas ce qui se passe.
Alors,
je sais. Ouais, il y a une autre actu.
Je vous le dis ou je le dis?
Non, allez-y.
Bon, donc il se passe la même avec les rafales et la Suisse. C'est-à-dire que la Suisse, finalement, elle a pas tout à fait prévenu non plus, mais elle préfère les avions de combat américains.
Et sachez que j'ai été la cible des représailles diplomatiques, puisqu'en arrivant à France Inter tout à l'heure, il se trouve que c'est pas très original, mais mon porte-clé, c'est un couteau suisse et on me l'a confisqué à l'entrée. On dit, vous planquez les armes, ça suffit. Ça va dans les deux.
Mais qu'est-ce que vous faites à couteau suisse avec ça?
Bah, c'est mon petit porte-clés, quoi.
Oui.
Donc, ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas me le garder en bas à la sécu, donc on a dû aller le planquer avec le monsieur de la sécu près d'un arbre pour que je puisse le récupérer.
Ah ouais. Mais non.
Parce que j'allais vous attaquer avec mon coupe-ongle à tout moment.
C'est fabuleux. Et donc, Emmanuel Macron annule la visite à Paris de son homologue suisse et confisque le couteau suisse de Marine Le Pen. Donc, Guy Parmelin s'est fait ghoster par Macron, il viendra pas à Paris. Et donc, la France est fâchée avec la Suisse. Est-ce que ça vous attriste un peu ou c'est pas très grave?
Terriblement. Non, mais je me demande vraiment cette histoire de diplomatie, si on faisait ça avec autre chose que des hommes hétérosexuels, si ça passerait mieux, en fait. Si on arriverait à se parler, si tout ça serait un peu fluide, je sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'ils savent pas se causer, quoi.
Bah, généralement, avec Merkel, ils se causent un peu mieux. Ça fait
tout de suite.
Elle a connu plein de présidents français. Là, elle part, ils sont tristes.
Donc, imaginons si c'était des personnes LGBT, par exemple, ce serait extrêmement fluide. Tout serait super. Ça irait plus vite.
C'est vrai. Marina Rollman et Thomas VDB, elle a aujourd'hui.
Tout à fait. Bonjour, les amis. Moi, aujourd'hui, je vous parle d'un sujet très léger. Parce que ce week-end, c'était les journées du patrimoine. Je suis donc allé bagnauder dans Paris à cette occasion. Allez, je vous emmène en balade dans les rues de la capitale. J'essaie de faire Laurent Deutsch, je ne vais pas très bien encore. Regardez cette gargouille au plafond. Elle date du 16e siècle. C'est vrai que c'est la bonne journée pour s'intéresser aux gargouilles et aux moulures, les journées du patrimoine. Donc, dans le 12e arrondissement, j'ai découvert un truc qui m'a scotché, moi. C'est un nouveau système pour éviter les PV qui permet de garer un deux roues tout en haut d'une sorte de piquet plutôt moche. Je peux vous dire
dire que le Laurent Deutsch en moi s'est dit, mais c'est très insouciant. Non, c'est vrai que c'est la statue pour Johnny Hallyday, évidemment. Alors, je trouve pas ça particulièrement Jojo. Enfin, c'est Johnny, mais c'est pas Jojo. Mais c'est pas grave. Voilà, je tiens à dire que ça m'empêche pas de dormir, parce qu'il y a des gens qui s'écharpent à cause de la statue de Johnny, et je crois que je prenne ça trop à cœur. Hein, j'ai envie de dire, calmez-vous, les gars. Parce que l'art, aujourd'hui, à Paris, divise vraiment les gens. Je sais pas si vous avez vu l'Arc de Triomphe décoré par Christo. Alors, on aime ou on aime pas. L'animatrice de CNews, Christine Kelly, sur son Twitter, elle a posté une photo du truc, elle a marqué « J'ai honte, désolé ». Alors Christine, si vous m'écoutez, je doute que vous nous écoutiez, mais je voulais dire, il n'y a pas de lézard, vraiment, mais vous y êtes pour rien du tout, vous n'avez pas à être désolé. Je sais pas si en voyant l'Arc de Triomphe, il y a une seule personne qui s'est dit « Bah bravo Christine Kelly, bravo Lino, beau boulot Christine Kelly !» Je pense, non, on est là, mais c'est pas grave Christine, c'est pour rien. Bon. Alors la troisième œuvre qui divise les gens cette semaine, c'est une affiche d'Éric Zemmour devant laquelle je suis passé et sur laquelle je vois que quelqu'un a écrit Zob et a dessiné une toute petite moustache d'Hitler comme ça. Et moi, vous savez que j'adore le street art, donc je me dis tiens, mais qui a fait ça? Alors je vois bien que c'est pas du Banksy quand même, mais j'ai envie de savoir. Et donc je vais voir sur internet et je tombe sur une vidéo alors avec cette fille qui fait le dessin de la moustache et je me dis bah, je la connais celle-là. Je dis c'est l'animatrice de l'émission chez qui je fais des chroniques sur France Inter. Alors tout le monde, alors, vous êtes tombé dessus, Charline, j'ai eu une pensée pour vous, votre téléphone qui a dû passer un week-end bien chargé. Alors je vous dis, pour tout vous dire, j'ai été étonné de la quantité de réactions négatives, parce que je me dis qu'il fasse rire ou non, je croyais que la France était plus solidaire avec ses caricaturistes. Alors si vous permettez que je mette un peu d'eau dans le vin de ce débat, je vais verser vraiment 5 jerrycans d'Evian pour essayer de détendre un peu tout le monde. Et voilà, c'est le moment de ma chronique où finalement je décide de plus trop parler des journées du patrimoine. Non, parce que moi, chez mes parents, quand on était petits, je vous dis, on était abonnés à Télé 7 jours. Et on trouvait que c'était bien parce que ça proposait toujours la rubrique si vous avez raté le début et ça résumait le début du film. Et moi, quand ma mère, elle achetait le Télé 7 jours, je vais pas dire à chaque fois, mais quasiment à chaque fois, avec un stylo, je dessinais des petites moustaches au gars ou à la fille en couverture. Tous les jeudis soirs. Et je suis désolé, mais en 30 ans de Télé 7 jours, moi, tout le paf a eu la moustache d'Hitler. Vraiment. Jacques Martin, Michel Drucker, Véronique Jeannot, Véronique Jeunesse, même Jordi. Tout le monde a eu la moustache. Parce que perso, moi, je suis nul en dessin. Et franchement, on pense ce qu'on veut d'Hitler. Personnellement, je n'adhère pas du tout à ses idées, mais c'est quand même lui qui a la moustache la plus facile à dessiner. Parce que, allez-y, vous dessinez des belles bacchantes à Olivier Mine ou à Thierry Beccaro. Vous verrez que c'est pas facile. Hitler, c'est facile, c'est un tout petit carré noir. Vraiment, c'est très facile à faire. Alors, je me dis, est-ce qu'on pourrait arrêter de faire semblant de pas comprendre ce qu'a voulu faire Charline? Parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais c'est horrible! Elle a fait ça parce qu'il est juif, Éric Zemmour! Et là, alors, excusez-moi, mais j'ai raté un truc, mais moi, je savais pas du tout qu'il était juif, Éric Zemmour. Mais vraiment, alors xénophobe, j'avais compris qu'il était ça, j'avais compris. Et c'est vrai que Zemmour, c'est plus facile de remarquer qu'il est xénophobe que juif. Quand même, hein. C'est vrai, il va interdire les prénoms d'origine étrangère, c'est quand même plus xénophobe que juif comme initiative, hein, je dirais. Parce que moi, je dis qui est juif ou qui est pas juif, c'est vraiment un critère qui me passe au-dessus de la tête. Vraiment, je ne fais pas gaffe à ça. Par exemple, quand j'ai vu Rabbi Jacob la première fois de ma vie, tout le monde rigolait. Ah, mais Salomon, vous êtes juif? Moi, je comprenais même pas la blague. Ah oui, d'accord, par rapport à la marque de chaussures de ski. Ça, vraiment, je voyais pas le truc, quoi. Alors voilà, donc je voudrais aussi m'adresser à tous ceux qui sont hostiles aux humoristes de France Inter parce qu'on est payés par leurs impôts. Alors si ça peut vous consoler, on est vraiment pas bien payés. Mais je voulais vous dire, si le seul problème que vous avez avec l'utilisation de l'argent de vos impôts, c'est le fait qu'on soit payé avec, mais vous avez de la chance. Parce que moi, dans ma rue, par exemple, il y a pas longtemps, ils ont mis un dodane. Et toutes les voitures, elles freinent, ça fait un bouquin pas possible. Et je suis pas d'accord, mais je fais avec. Je vais pas aller sur la page Facebook de la DDE pour dire « C'est une honte, rendez-moi mon argent !» Enfin voilà, je fais avec. Bon, c'est vrai qu'au début, j'avais dit que je partais sur un sujet très léger, j'ai un peu déplacé. Donc, pour vous détendre, je peux refaire une imitation de Laurent Deutsch. On arrive au métro Réaumur Sébastopol. Saviez-vous que le physicien René-Antoine Fairchaud des Réaumur est né en 1683 à La Rochelle? Si vous voulez le faire, c'est pas dur, faut faire une voix de petit filou.
Thomas VDB, merci Thomas. Juliette Arnaud pour Marina Rollman, un sujet.
Enfin, les 180 épisodes de Seinfeld arrivent sur Netflix. Un journaliste avait trouvé à l'époque le meilleur slogan pour cette sitcom, A Show About Nothing. Une série qui parle de que dalle. Et où il n'arrive vraiment rien ou alors pas grand chose. Bref, comme la vraie vie, mais avec de meilleurs dialogues. Dans la vraie vie, quand on parle de trucs sans intérêt, c'est pas forcément drôle. Sauf si t'es stone. Ou amoureux.
Parlez-moi de vous. D'où venez-vous?
De Dijon. C'est là que j'ai commencé mon métier d'attaché de presse. Je m'occupais du festival Moutarde et Cinéma.
Ah, c'est passionnant. Et ça parlait de quoi?
De Moutarde et de Cinéma.
Oh, formidable.
Ma première voiture, c'était une Peugeot.
Ah, c'est extraordinaire.
Et un jour, mes cousins, ils sont allés dormir chez ma grand-mère.
Mais c'est fabuleux.
Alors, j'ai dormi dans la chambre du bas parce que j'avais prêté mon pull.
Ah, vous êtes merveilleuse, Odile. Merveilleuse.
C'était La Cité de la Peur avec, évidemment, Chantal Lobby et Gérard Darmon. Alors, Seinfeld, Marina, série qui parle de rien. Est-ce que vous pouvez nous la pitcher?
Oula. C'est des gens qui sont vraiment plus absorbés par eux-mêmes que par le monde. Sauf qu'ils essayent de faire corps et ils essayent d'être amis. Donc non seulement ils sont misanthropes avec le reste du monde, mais ils sont même pas très sympas entre eux. Et c'est ça qui est délicieux, c'est que je crois que c'est Larry David qui disait il s'était fixé deux règles, c'était qu'il y avait pas d'embrassade, il y avait pas de câlin, et on n'apprenait rien. Parce que généralement l'arc d'un épisode de sitcom, c'est toujours genre à la fin on finit hug hug câlin câlin
avec la petite morale.
Et voilà. Et maintenant tu sais qu'il faut avoir confiance en toi même si tu as des grandes oreilles. Et là vraiment c'est genre les gens foncent dans le mur de la misanthropie tout le temps. Et c'est merveilleux, c'est délicieux, c'est hyper drôle, ça vieillit pas trop. Non, c'est bien, c'est très très bien, c'est très très bien.
Dans un article, dans une interview au Monde, vous disiez que vous aimiez beaucoup Seinfeld, Jerry, et vous disiez quand tu as un esprit analytique et que tu aimes écrire, tu comprends sa méthode à Jerry Seinfeld et tu peux essayer de l'appliquer. C'est quoi la méthode Jerry Seinfeld?
Alors moi, c'était plutôt le créateur de la série. Il a aussi une carrière dans le stand-up. C'est un peu un des plus grands stand-upers encore vivant aux États-Unis. Et ce que je voulais dire par là, c'est que je crois qu'en tout cas, je comprenais un truc un peu dissertatoire. C'est-à-dire si les dodanes, ça nous intéresse, enfin ou ça nous énerve, on peut aller de A à Z et faire une petite argumentation comme on aurait écrit une disserte quand on était à l'école, simplement la ponctuer de petites blagues. Alors, je sais pas si j'ai la méthode, mais en tout cas, je comprenais qu'on allait d'un point A à un point B en essayant de faire une espèce de démonstration. Puis après, il fallait ensuite saupoudrer ça un peu de rire. Lui, je crois que ce qu'il dit, en tout cas dans les trucs, ses petites règles à lui, il s'interdit les mots vulgaires. Il trouve que c'est des béquilles et qu'il en a pas forcément besoin. Il essaie d'aller toujours au plus rapide et de choisir des mots drôles. Ça, c'est un peu les petites règles.
Avec les sons le font rire.
Exactement. Ouais.
Eh bien, on a un petit sketch pour mettre pas du tout ça en application, j'ai l'impression.
Ça va être très long et les mots sont en revanche pas très marrants.
Voilà, donc on avait compris que Jean-Yves Le Drian ne décollerait pas contre les Australiens qui finalement ne nous ont pas acheté nos sous-marins. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Guillaume, vous êtes le ministre. Marina, vous êtes la DIRCAP du ministre. Et Charline, l'homologue australienne.
Alors, Martina, quel est le prochain dossier à traiter?
Marina.
Ok, c'est pas ce que j'ai dit?
Non, enfin bref. Alors nous avons en ligne l'Australie.
Omar Sy, qui s'y nous veut lui?
Ah non, pas Omar Sy, l'Australie, ah. C'est pour la vente de sous-marins.
Ah oui, bah passez-les-moi.
Alors en fait c'est en anglais, vous voulez pas un traducteur?
Non, je ferai un tracteur enfin.
Non, un traducteur.
Ah non, vous en faites pas, j'ai étudié l'anglais.
Ah bah super.
À l'université de Rennes.
Ah merde.
Hello Mr. Le Drian.
Yes.
We don't want your submarines.
Yes, la vente de submarines. Ben, je vous en mets 7, hein, c'est ça?
Ah non, je crois que vous avez pas compris. Hein.
We don't want it.
8, d'accord, ben, je les mets de côté, 8.
Non, nous allons prendre les sous-marins américains car ils sont plus performants.
Armoricains, bon, Karina, ils sont armoricains nos sous-marins, là?
Ben, ils sont fabriqués à Cherbourg.
Ben, très bien, yes, sous-marins armoricains. Allez, et si vous en prenez 12, je vous offre les gens talus.
Non, you don't understand. We don't care about it. You understand?
Oui, allez, c'est parti pour 12. Bah, je vous laisse parce qu'il y a les chiffres et les lettres qui commencent là. Hein.
Une semaine plus tard.
Alors, ma petite, traduisez en anglais, bande de kangourous, vous savez où vous pouvez le foutre, notre relation franco-australienne.
Mais c'est quoi ça, monsieur le ministre?
Bah, c'est la lettre qu'on va envoyer à Crocodile Dundee, là.
Ah oui, non, mais faut vous calmer, on peut passer à autre chose.
Ok, Farina, quel est le prochain dossier à traiter?
Oui, mais alors moi, je m'appelle toujours Marina, et puis oui. Farina, ça n'existe pas, en fait.
Oui.
Bon, allez, il y a plus urgent, il y a l'Afghanistan.
Qu'est-ce qui se passe là-bas?
Ah, bah, rien, les talibans, la dictature, les femmes grillagées, la violence, quoi.
Alors, ma petite Farina, vous sortez votre dictionnaire français-arabe et vous traduisez « vend 12 sous-marins et à 9 ».
Ouais, des sous-marins en Afghanistan, c'est un petit peu comme Jean-Yves Le Drian, en fait. On n'est pas bien sûr d'en voir l'utilité.
Vous connaissez la bonne nouvelle quand il y a des florilèges, Juliette Arnaud?
C'est que il y a une surprise.
Ouais, c'est qu'on est lundi et qu'on va quand même avoir droit à un Frédéric Fromet.
Alors que c'est jamais lundi.
L'Ukraine, alors. La ville de Mariupol, selon mes sources, hein, fait beaucoup rire Vladimir Poutine. Parce que ça lui rappelle une chanteuse française. La fameuse Mariupol belle.
Je m'en doutais.
Je le connais par cœur, c'est mon Fred Frou. Je ne suis pas pour l'Ukraine, j'ai la haine, je suis pas pour Zelensky. Il est trop gay et nazi. Opération militaire, pas la guerre, pas la guerre. Je purifie Mariupol, des marioles, et je lance l'offensive sur Kharkiv, et je lance des missiles au hasard sur Tchernobyl. Bien au chaud dans ma datcha, je bombarde Odessa, je marche à n'apprendre Kiev, je sens qu'on m'en fait grief, m'en fait grief. Lorsque mon armée convoite à la capitale, j'escomptais que l'assaut fût rapide et fatal. Mais cette clique d'Ukrainiens semble avoir plus d'avenir que Valérie Pécresse. Ils me résistent très fort et ça me blesse. Je suis pas pour les rebelles, pour les brêles, à ma table c'est moi le maître, je reçois à plus de 20 mètres, je suis pour la Sibérie, pour y congeler l'ennemi, je suis pour l'empoisonnement de n'importe quel opposant, à quoi bon les droits de l'homme quand on a le polonium, l'adversaire je m'en moque, à renfort de Novichok, j'aime bien Mireille Mathieu, mais elle a pris un coup de vieux, quand elle chante les mille colombes pour que la paix soit sur le monde, ah 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 ah. Très vite, je fis connaissance de gens pervertis, des Occidentaux perdus, soudain réunis. Comme je n'abdiquais pas, je poursuivais le combat sans même craindre Jean Castex. Je crois qu'ils en sont restés tout perplexes. Je ne suis pas pour l'OTAN, pour autant, j'aime la famille Muliaise qui agit au nom du PES, avec c'est le roi Merlin qui ne boude pas le Kremlin, avec également Auchan qui privilégie l'argent. J'aime beaucoup Décathlon qui ne pense qu'au pognon. J'aime beaucoup Pernod Ricard car assoiffé de milliards. Vive les boîtes sans vergogne, Yves Rocher et Danone. Vive les entreprises françaises qui prospèrent tranquille à l'aise. Je ne suis pas pour l'Ukraine, j'ai la haine, j'ai la haine. J'aime bien qu'on marche droit comme le peuple chinois. J'aime bien la Tchétchénie, aussi la Biélorussie, depuis qu'elles sont à ma botte, que leurs guides sont mes potes. On dit que j'ai pas toute ma tête, que je fais tourner les soviets, que j'ai pété une durite à la mode de Moscovite. Mais que dire de cette chansonnette et de son auteur Panette, qui de Mariupol a fait le lien avec Mariupol belle, Mariupol belle, Mariupol belle.
Bravo.
Merci.
Frédéric Fromet, merci.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cette émission. Merci Juliette Arnaud.
Je vous en prie Charles, c'est un plaisir.
On va se retrouver demain en direct avec Alex Vizorek. Je vous dis à demain.